Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons traiter du Homer, de la Sefirat à Homer. Nous sommes dans une période qui relie, et non pas qui sépare, Pesach à Shavuot. Il n'y a pas de séparation dans le judaïsme. Il y a une différenciation, mais là, dans le cas de Pesach et Shavuot, il y a une liaison, un lien. Vous savez que Shavuot n'a pas de date. C'est pour ça qu'on l'appelle Shavuot. C'est des semaines par rapport à Pesach. Pas seulement au niveau du temps, mais au niveau de la notion. Ce qui veut dire que Shavuot n'existe pas, en fait, s'il n'y avait pas Pesach. Il n'est que la suite de la sortie d'Égypte. Il n'y a pas de sortie d'Égypte, il n'y a pas de Torah. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'homme n'est pas libre. Et un homme libre ne peut pas avoir la Torah. La Torah n'est donnée qu'aux libres. Donc ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte n'ont pas eu la Torah. Ceux qui ne sortent pas d'Égypte, même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de liberté de réflexion, ne peuvent pas réellement recevoir la Torah. Ils vont être étouffés par plein d'informations de Torah sans avoir réellement une véritable Torah. Quand vous étudiez, faites très attention de ne jamais immédiatement plonger dans les commentateurs. Étudiez d'abord avec votre tête, avec votre cœur, avec tout votre système, et après seulement, une fois avoir bien travaillé votre étude, vous allez voir ce que les sages disent de ça. Sinon, ça va vous étouffer, ça va vous scléroser, ça va vous boucher votre étude. Ce n'est pas par hasard que les commentateurs en français, ça s'appelle un commentaire. C'est-à-dire comment se taire. À la place d'étudier, tu utilises ce que Rashi a étudié. Ça, ce n'est pas une étude. L'étude, c'est d'abord de faire un effort toi-même, de développer ton étude, pour arriver ensuite à savoir ce que tel et tel commentateur a donné sur ce même sujet. Ken ?
On dit que la vote, il faisait déjà les
mitzvot
et la Torah.
Il faisait quoi?
Il faisait déjà les
mitzvot
avant qu'elle soit déjà. Qu'est-ce qu'il y a rien à rajouter à la Torah? Si déjà on peut faire les mitzvot
Tout à fait. La Torah est en réalité vécue à ce niveau-là. Si ses sens, les cinq sens de ta vie, sont sains. À partir du moment où tes sens vont redevenir sains, on n'a plus besoin de l'étude. C'est-à-dire que la Torah est tellement intuitive chez Abraham, chez Yitzhak et chez Yaakov, qu'ils n'ont pas besoin d'un apport extérieur d'un texte. Ils ont déjà la Torah en eux. Toi aussi, tu as la Torah en toi. Alors, pourquoi tu as besoin de feuilles? Parce que tu n'es pas encore capable, toi, tout le monde, moi aussi, de sortir la Torah qui est à l'intérieur de moi, dans ma nature, sans chercher un aimant. Ça, c'est un aimant. J'apporte un aimant et je le fais passer dans mon être. Et donc, il va aimanter ce qu'il y a déjà en moi, il va le faire sortir. D'accord? Mais c'est déjà en moi.
Le don de la Torah, il n'y a rien à ajouter en nous.
Tout à fait. Et le don de la Torah, il vient juste révéler ce que tu as déjà en toi. Et donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, dont les sens étaient sains, vivaient la chose naturellement. Donc ils savaient exactement quand est-ce que c'était le soir de Pessah, sans qu'il y ait encore la sortie d'Égypte. C'est-à-dire leur Pessah à eux, bien entendu, ils avaient un autre vêtement, c'était tout simplement un soir de libération. Ils savaient que ce soir-là, on pouvait se libérer de n'importe quel emprisonnement de l'esprit. Non, c'était justement objectif. Si c'était subjectif, ça voudrait dire qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov ont inventé une religion. Non, c'est la même lumière de l'infini qui descend chez eux, mais par rapport aux événements historiques de l'époque. C'est pas subjectif. C'est toujours la même objectivité divine qui se dévoile à l'époque. Donc, comme il n'y a pas eu encore de peuple d'Israël, il n'y a pas eu d'Égypte ni de sortie d'Égypte, reste néanmoins la qualité de l'intériorité de cette journée. Qu'est-ce que tu fais en fait à Pessah? Pas la sortie d'Égypte. La possibilité de sortir de n'importe quelle Égypte. Un jour, ça s'est habillé dans l'histoire du peuple. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Parce que si c'est juste pour rappeler une histoire, ça ne sert à rien. C'est pour ça que le Ramban il te dit, toi-même, tu dois être capable de sortir de ta propre Égypte. Chayav Adam lirot et atzmo. Tu comprends? Ne confonds pas les faits historiques avec l'énergie de la journée en question. Yom HaAtzmaout, par exemple, même s'il n'y avait pas Medinat Israël, c'est un jour qui existait depuis la création du monde. Pas encore révélé chez les hommes. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passait dans cette journée-là, depuis la création du monde, avant qu'il y ait Medinat Israël? Possibilité de revenir à une indépendance. Tu comprends? Au moment où le peuple a attrapé ça en l'air, il a tout simplement acheminé dans le monde, et il en a fait une fête. Il a réalisé quelque chose. Mais cette journée, avec sa qualité, avec son potentiel, existait bien avant. Et c'est la même chose pour toutes les fêtes. Il faut être capable un jour de déceler cette force et d'en faire quelque chose dans l'histoire. Donc on ne fête pas l'événement historique, mais l'énergie qui circule dans l'air pendant cette journée. Donc même s'il n'y a pas de fête, même s'il n'y a rien du tout, dans les jours qui passent dans l'année, il y a des énergies différentes. Et si tu sais les attraper, tu peux vivre selon leur véritable énergie.
C'était tous les jours.
Bien fait. Tous les jours a quelque chose de spécial. C'est pour ça que dans la Sphirat HaOmer, les kabbalistes sont venus pour te dire qu'il y a des sphères, il y a des éléments. Et si tu sais vivre la journée en question selon la Sphira précise de cette journée-là, tu vas comprendre que c'est pas la même chose qu'hier et qu'avant-hier. Là, si je suis le 24e jour du HaOmer aujourd'hui, ça veut dire que je suis dans la 4e semaine, et dans la 3e journée de la 4e semaine. C'est d'accord? Alors je vais compter Chesed, Goura, Tiferet, Nessar. Donc je suis dans la sphère de Nessar. Et je suis dans la Tiferet du Nessar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du charabia? Non. C'est une qualité qui circule dans l'air aujourd'hui, dont ceux qui savent l'utiliser vont vivre leur journée. Différemment de ce qu'ils vont vivre demain et hier.
Non,
tous les jours c'est pareil. Puisqu'il y a 6000 ans pour toute la création, Sanhedrin, il y a en fait, tu peux te faire un tableau, c'est ce qui se passe chez les kabbalistes, ils ont un tableau immense de 2 mètres d'envergure, où il est marqué 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 6000 ans. 100, 100, 100, 100 de chaque millénaire. 10, 10, 10, 10. 1, 1, 1, 1. Et dans les jours, dans les années, jour, 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 jour. Dans les journées, les heures. Dans les heures, les minutes. Dans les minutes, les secondes. Et ils savent en réalité, à chaque seconde, à chaque minute, quel ange, quelle force spirituelle gère le moment en question. Donc, les véritables kabbalistes voient le temps comme un panier avec plein, plein, plein d'énergie qui ne se répétera jamais. Parce que chaque jour qui passe, c'est encore autre chose. Ce sont des mutations extraordinaires. Donc ceux qui savent ça, tu te rends compte qu'ils vivent à un autre degré. Okay? Alors la Gemara, dans le traité de Shabbat, à la page 75, nous dit que la sagesse d'Israël, c'est ça. C'est de savoir tout ça. Comment est-ce qu'on le sait? On l'a pas inventé, c'est pas subjectif. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné ça. Alors ça, c'est très important de comprendre. Donc, ta soda mofia bayamim, le secret qui apparaît dans les jours, hakover ki mesiyut ayom hashmini omedet lemala migvulot ateva, qui dit que le 8e jour, vous rappelez que le chiffre 8 est au-dessus de la nature, vous vous rappelez de ça? Nous avons dit que la nature, c'était le chiffre 7, et tout ce qui concerne la nature, c'est toujours dans le 7, le chiffre 8, c'est au-delà de la nature. Eh bien, c'est la même chose au niveau des 7 semaines du Homer. Les 7 semaines du Homer sont dans la nature, puisque c'est encore 7. Mais la 50e journée du Homer, elle est où? Elle est au-delà de la nature. Vous avez compris? Puisque 7 fois 7, c'est 49. Alors que la Torah nous demande de compter combien de jours? 50 jours. Tishperu Chamishim Yom, c'est un texte de la Torah. En quoi les sages ils font exprès de ne pas comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu leur dit? Il y a marqué de compter 50 et nous on compte combien? 49. Pourquoi on compte pas le 50? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Parce que le 50 est au-delà des comptes. On ne peut pas le compter, tu ne peux pas le chiffrer. Le chiffre 50 n'est pas un chiffre, c'est comme le chiffre 8. C'est un degré qui dépasse les chiffres, qui est à la source de tous les chiffres, qui est la matrice des chiffres. Vous avez compris? Donc, même si la Torah te dit de compter, tu comptes, c'est-à-dire tu prends en compte qu'après les 49 degrés que tu vas travailler pendant le Homer, tu vas atteindre le chiffre 50. Donc la huitième semaine. Vous êtes d'accord avec moi? Après les 7 semaines du Homer, commence une huitième semaine. Et que se passe-t-il dans le premier jour de la huitième semaine? Shavuot. C'est le don de la Torah. Ok? Ça veut dire que la Torah nous vient de quel chiffre? 50. Ou 8. C'est la même chose. Donc, elle est subjective ou objective? Quoi? Objective. Parce que si c'était subjective, ça aurait été donné du 7. Le 7, c'est humain. Le 7, c'est temporel. Mais le 8 est au-delà. Nous, les hommes, on n'est pas dans le 8. On est dans le 7. Donc, si quelque chose nous arrive du 8, ça veut dire qu'il nous arrive de l'objectivité divine. C'est pas nous qui avons créé cette chose-là. Donc le judaïsme est tout sauf une religion. Vous comprenez que toutes les religions, elles sont liées au chiffre 7. C'est une invention des hommes. Si vous dites la religion juive, vous êtes en train de faire une erreur. C'est comme si tu as descendu le judaïsme au chiffre 7, donc une invention d'un type peut-être très intelligent qui s'appelait Moshe Rabbeinu. Donc il nous a écrit un texte, mais c'est encore humain, quoi. C'est sa pensée à lui. Mais c'est pas le cas. Ok.
Quelque part, on doit vivre dans ce monde.
Hein?
On doit vivre ces
idoles-là
dans ce monde.
Ça veut dire, c'est subjectif quand c'est arrivé chez toi. Mais ça vient de l'objectivité. Donc, l'objectivité divine, donc le chiffre 8 ou le chiffre 50, lorsqu'il descend dans le monde où toi tu vis, où moi je vis, eh bien, chacun de nous va révéler ce même chiffre 50 ou 8 par rapport à ta capacité à toi de le vivre. Donc le 8 va s'habiller dans le 7. Et donc c'est pour ça que tu ne me ressembles pas. Mais on a la même source. Mais nos accès sont différents. Tu as une autre manière de penser, tu as d'autres traits du visage, tu as une autre façon de parler. Donc tout ceci, ça vient nous montrer que nous sommes dans une quête de recevoir quelque chose de très 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 élevé. Alors, je vous pose une question très simple. Est-ce que nous avons déjà, avant Shavuot, avant ce 50e degré, goûté à ce 50e degré? Réponse, oui. Quand? Le soir de Pessah. C'est-à-dire, le soir de Pessah, on a déjà goûté du chiffre 50. C'est pour ça que le jour de Pessah, tu le comptes dans le Homer ou pas? Non. Il y a marqué Mimachorat. Et comment on l'appelle ce jour-là? Shabbat. Ça veut dire qu'il est comme le Shabbat. Donc, Shabbat, c'est quel chiffre maintenant pour vous?
Le 8.
Le 8. Alors qu'il s'habille dans un septième jour. Vous comprenez? Le septième jour doit dévoiler le huitième degré qui est en lui. Vous êtes avec moi? Il y a des gens qui observent le septième jour, mais qui n'observent pas le Shabbat. Pas pareil. Shabbat, c'est un nom, alors que le septième jour est un chiffre. Quand il arrive le septième jour de la semaine, toi, tu dois trouver à l'intérieur de lui le Shabbat. Donc le septième jour, tu dois chercher le 8. Et là, tu vas faire quelque chose. La Asot est à Shabbat. Sinon, tu vas vivre au degré du septième jour. Tu vas te reposer, tu vas dormir. Mais c'est pas encore Shabbat. Vous avez compris que le Shabbat, Birshut Arab. Vous avez donc compris que le Shabbat n'est pas lié au chiffre 7, le Shabbat est un 8, mais il se dévoile dans le Yom HaShvi'i. Donc Yom HaShvi'i c'est Mispar, et Shabbat c'est Shem. D'accord? Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que le Shem vient donc de quel chiffre?
8.
Le 8. Donc tout nom vient du 8e degré, alors que les chiffres viennent du 7. Vous avez compris? Si par exemple quelqu'un vient et t'empêche de toucher le 8, il veut que tu restes dans le 7. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il veut te faire dire? Que tu n'as pas de lien avec le Shem, donc tu n'es qu'un chiffre. Et c'est ce qu'on a essayé de nous faire pendant la Shoah. On nous a gravé des chiffres pour nous dire, vous n'êtes pas les traducteurs de la volonté divine. Vous n'êtes pas dans le Shem, vous êtes dans les chiffres. Et nous, aujourd'hui, en Eretz Israël, quand on est revenu, on a fait Yad Veshem. Extrait. Le Yad Vashem, c'est pour ça. C'est pour corriger ce que les nations du monde n'ont pas compris. Elles pensaient qu'on était liés qu'au chiffre 7. On est de ce monde comme tout le monde. Or, le peuple d'Israël vient « Me'ever la nahar yashvu avotechem » de l'autre côté du fleuve. C'est une notion qui parle du 8. Comme si on était des extraterrestres. On vient du 8 pour donner information au monde qui est dans le 7 des valeurs qui se trouvent dans le 8. Donc nous sommes les messagers du 8e degré. Qu'est-ce? Le nom, ça détermine parce que ça détermine dans le nom au niveau du 7. C'est pour ça que quand on compte quelqu'un, comment est-ce que la Torah nous demande de compter quelqu'un? Non, ben Mispar Shemot. Incroyable. Ça veut dire que tu rentres le Shem dans le Mispar. Donc c'est la capacité à faire descendre un Shabbat dans ce monde. Comment est-ce que Shabbat peut descendre dans ce monde puisque Shabbat est au-delà du temps? C'est ça le secret. D'accord? Un jour, on sera capable d'entendre un son qui n'existe pas encore aujourd'hui. Un 8e son. Aujourd'hui, combien de sons il y a dans la musique? 7. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Non. Do, c'est un autre octave. Je vois que tu n'es pas musicien, toi. Okay? Tu passes à un autre degré. Mais il n'y a que 7 dans les graves, dans les aigus, mais tu continues. Mais c'est toujours 7. Mais il y a un 8e degré. C'est un son qui sort, en fait, du violon de David Amelé. Quelque chose de la fin des temps. C'est un autre son. C'est un autre degré. Et ça, on doit, nous, le peuple d'Israël, on est censé le traduire dans une réalité terrestre. C'est pour ça que nous avons été créés. C'est en cela que nous avons été choisis par Akadosh Baruch Hu pour dévoiler ce qu'il y a de l'ordre du 8 dans le monde du 7. Donc il y a plein de 8 dans ce monde. Par exemple, Rosh Chodesh Nissan, qui s'appelle lui aussi un 8. Ce qu'on l'appelle dans la Torah, Vayehi Bayom HaShmini. Donc 7 jours avant, on prélevait la famille des Kohanim pour se préparer à ce 8e jour. Un autre jour qui s'appelle le 8, Yom HaKippurim. Puisqu'il y a marqué dans la Gemara que 7 jours avant, on prélevait le Kohen Gadol pour lui apprendre le travail pour le 8e jour. Le Shabbat, je viens de vous le montrer, c'est aussi de l'ordre du 8. Alors qu'il y a 7 jours, y compris le 7e jour, dans lesquels il prépare au 8e degré, qui s'appelle déjà Shabbat. La même chose au niveau de votre être. Vous êtes dans votre corps, dans votre vie, un 7, mais vous avez un élément qui vient du 8, c'est la Neshama. C'est pour ça qu'on l'appelle Shem. Dans le mot Neshama, il y a le mot Shem et il y a le mot Shmoné. C'est la même chose. Neshama, c'est les lettres de Shmona. Donc vous avez ces degrés-là qui viennent. Hanouka, nous avons aussi 8 degrés. Et donc maintenant vous commencez à comprendre que le peuple d'Israël, c'est en fait le messager, le métavers, l'interface entre le 8e degré et au-delà, et le monde qui est complètement dans le ciel. Alors je vous ai dit que le soir de Pessah, nous avons déjà touché à ce chiffre 8. Comment je le sais? Non. Je suis en train de me dire quelque chose d'inverse. Toi, tu crois que parce que c'est marqué, c'est vrai. Ah, c'est parce que c'est vrai que c'est marqué. C'est différent. Alors, d'où je sais que le soir de Pessah, nous sommes sortis avec le chiffre 8. Ken ?
Parce que
Pessah, c'est tout simplement. Pouvoir sortir du contexte naturel, c'est tout simplement que quelqu'un est venu nous éclairer notre vie par le chiffre 8. Donc la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est un éclairage immense qui vient du Olam Abba. Donc il y a une lumière le soir du Seder de Pessah qui est au-delà, qui dépasse l'ordre normal des choses. Comment on dit dépasser l'ordre normal des choses? Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire Pessah en hébreu? L'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire l'histoire? Les Daleg. Qu'est-ce que c'est les Daleg? Enjambés. Ça, c'est au-dessus. Donc, comme la lumière ne descend pas dans son ordre naturel, qu'on a l'habitude, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une petite lumière et encore une plus grande lumière et encore une plus grande lumière, que se passe-t-il le soir de Pessah pour nous sortir d'Égypte? Il y a tout de suite une très grande lumière qui arrive. Donc les petites lumières, elles se posent une question. Qu'est-ce qu'elles posent comme question, les petites lumières? Café, manishtana, halayla, zé. Donc c'est pas les enfants qui posent cette question. C'est sûr qu'autour de la table, on va faire poser la question aux enfants. Mais en réalité, c'est une question qui est posée par qui? Par les petites lumières. Elles se demandent comment est-ce possible que les grandes lumières arrivent avant les petites lumières. Et qu'est-ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qu'on leur dit? Que si c'était les petites lumières, jamais on serait sorti d'Égypte. Pourquoi? L'Égypte aurait avalé ces petites lumières. Donc il faut une grande lumière. Moralité, on a goûté le soir de Pessah à la très grande lumière qu'on va regoûter quand? Un Shavuot. Donc Pessah et Shavuot, il y a exactement la même lumière. Alors quelle est la différence?
On a un chemin pour y arriver.
Il y a fait. Après ça, on a reçu cette lumière gratuitement. On n'était pas actif réellement. Et à Shavuot, on a à recevoir la même lumière, mais cette fois-ci après 7 semaines de travail sur le chiffre 7. Qu'est-ce que c'est que le chiffre 7 maintenant? Vous comprenez? Comment on peut appeler ça? Les Midot. Donc si tu travailles pendant Sphirat HaOmer sur les Midot, combien de Midot il peut y avoir? 7. C'est tout, il ne peut pas y avoir plus. Tu vas recevoir, cette fois-ci, la lumière par tes efforts à toi. Donc le don de la Torah à Shavuot, même si ça vient du haut vers le bas, cette lumière est reçue chez chacun de nous selon les midot qu'il a corrigées ou pas. D'accord? Donc le soir de Shavuot, quand vous allez tous étudier la Torah Be'ezrat Hashem, on va tous étudier, chacun de nous va recevoir une Torah différente, alors que c'est la même qui descend. Selon quoi? Selon les midot que nous avons travaillées durant ces 7 semaines. C'est simple, c'est clair? Donc les midot, c'est quoi? Comment vous traduisez le mot mida? Une mesure. Donc nous sommes en train de travailler sur nos mesures. Est-ce que tu es démesuré dans ta vie ou est-ce que tu travailles tes mesures et tu sais les mesures des choses? Les gens démesurés sont malades. Les gens qui sont dans la mesure sont sains. Ok? Tout ce qui est démesuré est malade. Il faut revenir aux mesures. La mesure, c'est aussi un vêtement. Comment on dit un vêtement? Un main? Les rouges ou madim. Qu'est-ce que c'est madim? Un uniforme. D'accord? Madim. Donc ça vient de la mida. Donc ma chemise, je dois chercher une chemise qui est à ma taille. Donc, c'est la même chose. Quelle est la forme intelligente de la mida? C'est de construire un cli pour la lumière que tu veux recevoir. Un exemple d'un cli, un verre. Je veux remplir un liquide dans ce verre, mais je dois savoir quel liquide. Si je veux remplir ce verre d'un liquide bouillant, veux-tu obliger de changer le verre dans un verre qui est capable de recevoir et de contenir la chaleur. Alors, imaginez-vous, la lumière de la Torah, elle est de quel ordre? Du 8. Donc ton cli à toi, tes midot à toi, même si tu les travailles dans le 7, tu leur donnes quelle couleur? La couleur du 8. Et ça, c'est un travail énorme. C'est d'arriver à être un cli qui est capable de recevoir le chiffre 8. Vous avez compris? Alors que, naturellement, nous sommes dans le chiffre 7. Alors, chez les sages, ça s'appelle Hashvaat Hatsura. Tu vas faire en sorte que ta forme humaine devienne un cli pour la lumière divine. Qui est capable de recevoir ça? La nation d'Israël. Am Israël, en tant que nation, est capable de recevoir. Par lui, la nation d'Israël, elle est du chiffre 8. Donc comment est-ce que tu fais toi en homme personnel, privé? Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à ce que ton cli soit de l'ordre du chiffre 8? T'associer à qui? À ta nation d'Israël. Et c'est pour ça que les sages, avant de faire quoi que ce soit au niveau de la Torah qui est entièrement du chiffre 8, qu'est-ce qu'il dit? Bechem Kol Israël. C'est ça le Bechem Kol Israël. C'est pas juste une petite un préface au mitzvot. Non. C'est tant que je ne suis pas, moi, individuellement parlant, lié à ma nation qui est au chiffre 8, je ne peux pas réaliser cette mitzvah. Je ne peux pas étudier cette Torah. Donc à chaque fois que je rentre dans un cours de Torah, qu'est-ce que je dois dire? Beshem Yichud Kucha Berichu Shkinter, Beshem Kol Israël. C'est au nom de tout Israël que je suis en train d'étudier. Sinon, je ne pourrais même pas avoir de Chidushim pendant que je vous parle. Je vais être coincé dans le texte que je viens d'écrire. Si tu veux avoir des Chidushim dans la Torah, tu dois te relier par ta pensée à la nation d'Israël, qui, elle, est dans le chiffre 8, donc tu vas pouvoir recevoir des choses d'un autre monde.
Pour lui, c'est plus facile d'étudier tout ça que de réparer une
idole.
Comment on peut, en un jour, réparer un degré de...
Il y a fait mort. Tu ne... répare pas la mida en question, peut-être au niveau de la pratique, mais tu la répares au niveau de ta pensée et de ton vouloir. Après, tu auras toute l'année pour appliquer ce que tu as pris comme décision ce jour-là. Donc la mitzvah de la teshuva, entre guillemets, elle prend combien de temps?
Un
instant, même pas une seconde. Comment tu peux l'appeler cette teshuva? Ta décision. C'est juste la décision de vouloir être à cette place-là. Quel?
À la pensée, il y a beaucoup de jours à changer. Dans toutes les nuances, cette longueur, parce que là, dans le monde, c'est facile de
pas... Parfait, peut-être. Donc, c'est à ça que tu dois penser. À changer ta pensée, à recevoir une nouvelle pensée. Quelle pensée tu dois recevoir? Celle de qui? D'Akadosh Baruch Hu. On ne va pas appeler ça la pensée, on va appeler ça la volonté, le ratson. Parce que la pensée divine... Mais résonnant Yidbarach, il faut que tu transformes ton ratson, ton désir, ce qui te fait courir dans la vie, pour que tu cours après ce que lui veut. Pourquoi j'emploie le mot courir? Parce que le mot ratson, ça vient du mot la route. Quand tu veux quelque chose, tu cours. Tu n'es jamais fatigué quand tu as envie de quelque chose. Quand tu n'as pas envie, tu es toujours crevé. Mais quand tu as envie de quelque chose, ça te fait courir. Donc c'est ça le rasson, à ta race. Moralité, Pessah, on avait une lumière du chiffre 8. Shavuot, on va avoir une lumière de chiffre 8. Et nous avons 7 semaines entre les deux qui s'appellent Sira. Sira, un compte, donc mesure du 7. C'est clair? Différence entre Pessah et Shavuot, alors que les deux sont de l'ordre du chiffre 8, entre guillemets, c'est que Pessah, on l'a reçu gratuitement, et Shavuot, on va le recevoir par notre effort. Comment s'appelle donc le travail de notre effort? Sfirat HaOmer. Donc, ne croyez pas qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de compter des jours, on n'est pas des ânes. Quel? Ayom, Arba, Vesrim, Yom, LaOmer. On va voir si je suis intelligent. Shehem, Shlosha, Shavuot, ou Shlosha, Yamim. Yesh! C'est quoi? C'est une blague? Pourquoi vous comptez ce Homer? Qu'est-ce que ça veut dire compter le Homer? Qu'est-ce que ça veut dire compter? Avoir de l'importance, d'accord? Quand tu dis à quelqu'un, ça compte pour moi, tu comptes pour moi. Ça veut dire que pendant le compte du Homer, il y a quelque chose de très très puissant que tu dois travailler dans ton être pour te préparer à recevoir cette fois-ci par ton travail, par ton labeur, le chiffre 8, que tu as déjà goûté sa lumière après ça, et que tu vas avaler à Shavuot. Gamma Mishkan, Shayach le Madrigat Ayom Hashmini. Donc même le Mishkan appartient à ce degré, vous vous rappelez? C'est pour ça que l'inauguration du Mishkan, elle vient après 7 jours où les Kohanim se sont retirés pour apprendre leur travail. Et pourquoi ils ont fait ça? Pour s'habituer à ce nouvel étage, qui est le 8e, qui est le Mishkan. Donc, Shivat HaShavuot Shel Sfirat HaOmer, les 7 semaines du Omer, Hem Tamtit Sheshet Alfei Shanim Shel Kiyum HaOlam. Maintenant, je vais plus loin. C'est la graine de tous les 6 millénaires dans lesquels nous sommes. Écoutez bien, ça va loin maintenant. Ça veut dire que les 6 millénaires, je peux les habiller dans quoi? Dans les 7 semaines de Sfirat HaOmer. Mangenon Ze Poel Bayechidim ou Bayhistoria Kula. Et on va voir comment ça travaille chez les individus et dans l'histoire d'une manière complète, globale. Raknitsul Hameimad Ashvi Karaoui, donc seulement ceux qui profitent de cette époque, de ce passage, de ce set, et maintenant quand j'ai élargi, ceux qui profitent de leur création, de la création du monde, des jours, Klomar Tikkun Amidot Atartanot Ashayachotlo, et qui corrige les midot, les mesures inférieures qui correspondent à tout ce temps-là, seulement ceux qui font ça, mais Romem et Adam et Ma'alat Anshama. Ça va faire monter l'homme au niveau de sa Neshama, donc du chiffre 8. Chez Mikocha, que par sa force, Atidim Lidbasem Kolsh Ariemot Hashana, tous les jours de l'année vont être parfumés de ton travail, si tu fais un vrai travail pendant Sfirat HaOmer. Maintenant, Akadosh Baruch Hu lui aussi, comme il est le premier à réaliser ses propres mitzvot, car ce sont les siennes, rappelez-vous, n'est-ce pas? Donc Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il fait Sfirat HaOmer? Oui ou non?
Oui.
Ben oui, parce que c'est sa mitzvah. Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech HaOlam, Asher Kideshanu Bemitzvota Vetzivanu Al Sfirat HaOmer. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même compte le Omer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu compte le Omer? Il se dévoile dans l'histoire humaine, tu as bien compris, selon la qualité qui se trouve dans chaque semaine. Alors on va essayer de voir comment Akadosh Baruch Hu s'est révélé dans l'histoire humaine, selon les jours et les semaines du Homer. Kayem et Asama Nifla, donc il existe un parallèle extraordinaire, ben Seder Asfirot, She'anu Mechavnim Alehem Besfirat HaOmer, entre les 7 sphères auxquelles nous faisons référence pendant la Sfira, ou ben ameoraot shekaru bahistoria shel amenu, et les histoires, les événements qui se sont passés dans notre histoire. Alors on va commencer. Aleph, bashavu arishon, première semaine, c'est quelle sphira? Chesed, d'accord? Au niveau des midot. Je ne parle pas au niveau des mochim, des degrés supérieurs. Il y a encore 3 sphirot qu'on n'a pas mentionnées, vous rappelez? On est en train de mentionner seulement les 7 sphirot inférieures. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Donc c'est là où Akadosh Baruch Hu peut intervenir. Parce que c'est le monde dévoilé. Donc la première semaine est relative au Chesed. Qu'est-ce que c'est Chesed en hébreu? Que ça veut dire en français? La bonté, donc l'amour. Donc quelque chose que je te fais malgré toi. Alors viens, on réfléchit ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé la première semaine du Homer? Qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait un bien alors que nous n'étions même pas... Il a fait la sortie d'Égypte. On n'était même pas aptes à être libérés puisque nous y étions tous objets à Avodah Zarah. Alors pourquoi il nous a libérés? Parce que justement, c'est la bonté divine. Parce qu'il a un intérêt qu'on verra plus tard. De nous faire libérer. Donc, première semaine, Sholetet Sfirat HaChesed Ba'olam, Lachen Miteva Advarim, חלבו חג הפסח, המציין את גילוי חסדיו של השם יתברך לישראל במהלך גאולתם ממצרים. כל יחסמן, on vient de la dépasser, magnifique, הקדוש ברוך הוא a dévoilé le chesed dans le monde. Regardez, הקדוש ברוך הוא a corrigé, entre guillemets corrigé, une des midot. Il applique le chesed dans le monde par le biais de la sortie d'Égypte. C'est clair jusqu'à maintenant? Deuxième semaine, sans regarder le texte, c'est quoi comme sphère? Gevura. Alors, qu'est-ce qu'on a mentionné la deuxième semaine de la Sphirata Omer? Yom HaShoah Vea Gevura. Incroyable. Les hommes ont dit que ça s'appelle Yom HaZikaron, la Shoah Vea Gevura. Alors, je vous pose une question, ceux qui ont donné ce nom-là, la Shoah Vea Gevura, ils connaissaient les Sphirotes? C'est des kabbalistes? Non. Alors que s'est-il passé? C'est une prophétie de la nation. Ça veut dire que dans cette deuxième semaine, on sait que c'est Midat Hadin, que c'est la rigueur divine, donc il va y avoir quelque chose dans l'histoire. Et aujourd'hui, on rappelle cette malheureuse époque dans la semaine où c'est justement la rigueur. Midat Hadin. Incroyable. Encore une fois, Kadosh Baruch Hu utilise les sphirotes pour faire dévoiler sa volonté dans le monde. Ne regardez pas le texte. Troisième semaine, quelle sphère c'est? Tiferet. Tiferet. Qu'est-ce que c'est Tiferet? Qu'est-ce que ça veut dire Tiferet si on pouvait le traduire? Splendeur ou bien équilibre. D'accord? Refait. Refait, ça vient du mot Tiferet. À l'intérieur du mot Tiferet, il y a refoi. Thérapie. Thérapia. C'est les mêmes lettres que Tiferet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en fait la bonne santé? C'est d'être en équilibre. Donc, Tiferet, c'est l'équilibre. C'est la véritable traduction la plus proche, on va dire. Donc, qu'est-ce que c'est que l'équilibre dans ce monde? C'est que la nation d'Israël doit avoir quoi? Un État, une indépendance. Qu'est-ce qu'on a fêté la troisième semaine qui correspond à Tiferet? Medina Israël. Incroyable, mais vrai. Akadosh Baruch Hu a utilisé la thérapie pour donner au peuple d'Israël l'indépendance. Donc, tant que Israël n'est pas indépendant, il est malade. Au moment où Am Israël est indépendant, il devient les Tiferet Am Israël. Qu'est-ce que les gens qui allument les lumières à Yom HaAtzmaout, qu'est-ce qu'ils disent tous pour terminer? À chaque fois qu'ils allument, ils disent deux mots, trois mots. Tous. D'abord, ils disent leur nom. Ani, Yoel, Ben, Tata, Tatati, Tatata, Tatata, Bale, Adli, Keta, hein? Les, les Tiferet, Am Israël. Incroyable, ils utilisent le mot Tiferet. Encore une fois, est-ce que ce sont des kabbalistes? C'est incroyable, quand même. En face, quatrième semaine, quelle sphère c'est? Nessa. Netzar correspond à qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le Netzar, c'est l'éternité. C'est-à-dire que toi, qu'est-ce que tu dois faire cette quatrième semaine? Être continu dans tes actions. Alors ne fais pas les choses et tu t'arrêtes. Sois continuel, sois régulier, sois gagnant, comme Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, c'était quoi dans la première Géoula? C'est le Mashiach ou pas? Oui ou non?
Oui.
Moshe Rabbeinu, c'est le Mashiach. Donc il me faut à la fin des temps un nouveau Mashiach qui ressemble à Moshe, qui est la même date que lui. C'est-à-dire, quelle est la sphère correspondante à Moshe Rabbeinu, puisqu'il est de Netzar? Netzar du Netzar. Vous êtes d'accord? C'est le top. Moshe Rabbeinu, c'est Netzar chez Benetzar. Ok? Qui est né ce jour-là? Non, pas Rabbi. C'est un Rabbi, mais je n'ai pas... Herzl. Incroyable. Que le Rav Kook a dit que c'était Mashiach ben Yosef. Incroyable quand même. Ça veut dire que Herzl, à la fin des temps, c'est la correspondance de ce que nous a laissé Moshe. C'est bizarre, les deux, ils n'ont pas eu la chance de rentrer en Eretz Israël. Donc l'histoire se répète. Ma Il faut quoi? Sans? Ça c'est toi qui le dis. Pas du tout. Pas du tout. Il a un intérêt qui est mis en relief à son époque, mais il n'est pas du tout en manque de spiritualité. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Pourquoi la Torah, c'est spirituel? Alors, c'est. Donc, pourquoi tu as jeté Dieu dans le spirituel? Non, pas sans le côté de prophétie. C'est une prophétie qui se réalise.
Oui.
Il a fait, malgré lui. Malgré lui. C'est encore plus fort ou pas? C'est encore plus fort. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu utilise des gens qui sont tordus à ta tête, à ton sens. Peu importe. Okay. Et qui font des choses quand même. C'est pas plus fort encore? C'est incroyable.
Non, oui,
je comprends pas.
Oui, non.
Ah.
Ça veut dire que d'un côté, après,
avec tout ce qu'il a fait,
ouais,
il est quand même loin de la Torah et des mitzvot.
Non, de la Torah de Moshe.
Bien fait. Donc c'est ce qu'on voit dans le premier degré. Mais si tu vois après sa réalisation qu'il est là pour faire quelque chose, il réalise une autre parcelle. Si le Rav Kook est capable de dire de lui qu'il est Mashiach ben Yosef, hein, le jour de son enterrement, c'est lui qui a fait le Hesped. C'est incroyable. Et il dit que c'est Prinat Mashiach ben Yosef. Ça veut dire ou le Rav Kook qui s'est planté complètement, on n'a rien compris à l'histoire, ou bien il y a un problème là. Et on passe à l'autre semaine. La cinquième semaine, après la Sphira de Netzach, Hod, correspondant à qui?
À Aaron.
Et qu'est-ce qu'il fasse dans la Sphira de Hod? Qu'est-ce que c'est la Sphira de Hod? Hein? Non. Quelle est la qualité, c'est-à-dire la qualité de la sphère de Hod, c'est qu'il y a en elle un monsieur énorme qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quelle est sa sphira à lui? Hod Shebe Hod. De la même manière que Moshe c'était Netzar Sheba Netzar, Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom, c'est Hod Sheba Hod. Hod. Hod veut dire quoi? Il a fait que même si tu fais quelque chose, fais-le bien. Sois beau dans ce que tu fais. Donne une puissance qui, pas seulement dans la beauté, quelle est la spécificité de la Sphira de Hod? C'est un secret ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'elle est déjà tournée vers la Malchut. La Sphira de Hod, elle ne s'occupe pas des Sphirotes qui sont au-dessus. Son intérêt à elle, c'est de commencer à préparer la royauté d'Israël. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, quelle était sa fonction première? Préparer la Géoula et la Malchut d'Israël. Pourquoi il s'est battu Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'il était Rabbi Shimon Bar Yochai? C'était un Bahou Yeshiva ou c'était un guerrier? C'était un Bahou Yeshiva guerrier. Ben oui. Ça fait partie du mérite de Bar Kokhba tout ça. Les rabbanim qui étaient assis à Bnei Brak le soir de la Haggadah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils préparaient la révolte. Donc, toi, tu as l'impression qu'ils étaient en train d'étudier. Mais ils étudient quoi? Ils n'étaient pas dans la spiritualité où ils étaient. Je ne comprends plus rien. Ça veut dire que même la révolte fait partie de la Géoula d'Israël. On ne peut pas laisser une autre nation dominer cette terre. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il s'est sauvé? Parce qu'on voulait le tuer. Pourquoi on voulait le tuer? Parce qu'il était contre qui? Contre les Romains. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai un plan. Mais pour l'instant, il ne peut pas marcher, j'ai compris, je vais le mettre dans une boîte de conserve. Comment ça s'appelle cette boîte de conserve? Le Zohar. Donc il a pris le Zohar à Kadosh, c'est tout le plan pour la dernière Géoula. Il s'est dit, je vois que ça ne marche pas pour l'instant, je vais tout plier, et je vais le mettre dans une boîte de conserve, et je vais fermer. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, vous allez l'ouvrir à la fin des temps. Et maintenant, ceux qui ouvrent cette boîte continuent le travail de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est très important. Donc, sixième semaine, qu'est-ce qui s'est passé la sixième semaine? Non. Sixième semaine, c'est pas encore Yom Yerushalayim. C'est le Yesod. Le Yesod, c'est-à-dire que c'est véritablement l'avant-dernière Sphira. Donc, il va falloir qu'il y ait dans l'histoire, qu'Akadosh Baruch Hu nous amène encore une fois dans l'histoire, un personnage très très important qui continue ce travail-là. Comment il s'appelle? Et sa sphira, c'est Yesod Sheba Yesod. Il s'appelle Rabbi Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal, Alav Shalom. C'est incroyable. Regardez, on a fait Netzach Sheba Netzach, Hot Sheba Hot, Yesod Sheba Yesod. Donc nous avons Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, à part d'être un kabbaliste? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? C'était quoi son vrai travail? C'est de continuer la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'occupait de la création du monde, et lui, le Ramchal, il s'occupait de quoi? De la dernière Géoula. Donc on appelle ça Ma'asem Merkava. Il s'est occupé, il a fait la même chose que Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav HaShalom, a écrit 70 arrangements, on les appelle les Shiv'im Tikkunim, et le Ramchal a fait aussi Shiv'im Tikkunim. La même chose. Sauf que Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle d'un premier mot, Bereshit, et le Ramchal, il parle du dernier mot de la Torah, Israël. Moralité à eux deux, ils ont fait Bereshit, Israël. Un a commencé, l'autre termine. Quel? C'est gentil, je vais lui dire. Oui, ouais. Je vais lui dire.
À quel niveau
on le place?
Non,
ça va avoir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu doit avoir quelqu'un qui réalise. Moshe Rabbeinu, il est plus au niveau de l'esprit supérieur. Il faut quelqu'un qui soit, quelqu'un qui y voit au niveau pratique. Donc Herzl, découpe-le-moi en deux. Har Shelzel. C'est une montagne d'ombre. C'est-à-dire que celui qui le regarde de l'extérieur, il se dit, mais c'est quoi ce mec-là? C'est une montagne d'ombre. Mais l'ombre, ça vient par rapport à quoi? À la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. On est d'accord? Ça veut dire que la lumière de Moshe, avec tout son degré, est passée chez ce monsieur-là, qui a vu, alors que personne n'a pensé à ça. C'est bizarre quand même, de fonder un état.
C'est la même Neshama, oui?
Non, je n'ai pas dit que c'est la même Neshama. J'ai dit que c'est une continuité, une branche, qui fait partie intégrante de la Géoula du peuple d'Israël. Il y a fait, mais au niveau du Très-Haut. C'est-à-dire, quand les hommes voulaient parler, à qui ils parlaient? À Aaron, pas à Moshe. Aaron, il était plus avec les humains. Tu comprends? Moshe, il était un peu plus, beaucoup plus au niveau supérieur. Hein? Non, je n'ai pas dit ça, mais Akadosh Baruch Hu a utilisé ce personnage dans notre histoire, donc je dois le prendre en compte. Finalement, il a joué un rôle, je ne peux pas dire qu'Akadosh Baruch Hu n'était pas dans ce rôle qu'il a joué. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire qu'Akadosh Baruch Hu a une hashgacha pratique dans toute son histoire, sauf quand il a choisi ce type-là, il s'est planté. D'accord?
Pour Aaron,
Hod, c'est-à-dire que c'est tout le Adéaga, le souci de construire la malchoute. Qu'est-ce que c'est Aaron? Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Il fait le travail, réellement, dans le Mishkan pour faire descendre la Shina. D'accord? On appelle Baala des Matronita ou Baala. Il y a deux degrés. Moshe, c'est comme si c'était la femme d'Akadosh Baruch Hu, et Aaron, c'est la femme de l'Assemblée d'Israël. C'est-à-dire, c'est deux degrés. Moshe s'est occupé aussi du temple, c'est lui qui a reçu tous les messages, et il fait passer à un homme qui peut être plus pratique que lui.
C'est lui qui jugeait le peuple.
D'accord, parce que le peuple, c'est un jugement qui vient du supérieur. Même quand tu, aujourd'hui, ta voiture est tous la voiture de ton voisin, tu utilises Akadosh Baruch Hu. C'est beau quand même. Tu fais descendre Rochel Mishpat entre deux pare-chocs de voiture. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il a à voir Akadosh Baruch Hu là-dedans? Mais c'est ça justement la force de Moshe. Quel?
Mais Moshe, justement, les dirigeants de l'Israël, il doit être autant relié en haut qu'en bas.
Oui, mais on a vu que... D'accord, c'est un problème. Et on a vu effectivement que Moshe, sans Aaron, ne pouvait pas travailler.
Mais pourtant, on dit que celui qui était plus grand, c'était Moshe.
Mais voilà, il est plus grand. Il est tellement grand qu'il y a une difficulté, en fait, avec le monde d'en bas. Alors ça veut dire que ce n'est pas encore complet. Tu as raison. C'est pour ça qu'il va falloir le Mashiach qui, lui, va faire le lien. C'est toujours Moshe qui revient en pouvant, justement, cette fois-ci, s'occuper complètement du haut et du bas.
David,
il y a fait. Ça, c'est David. Donc, le futur Moshe, c'est Mashiach ben David. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de toutes ces sphirotes. Donc on a terminé avec la sixième Sphira, on est dans la septième. Septième, c'est juste avant Shavuot, septième semaine. Comment on l'appelle cette Sphira? Malchut. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Yom Yerushalayim, cette fois-ci, c'est bon. Hein? Qu'est-ce que c'est Yerushalayim? Bien fait, mais comment on l'appelle Yerushalayim dans les Chadodis? Comment tu chantes? Parce que tu... Non. Irmelucha, Efemor. Ça veut dire quoi? C'est la ville de la royauté d'Israël. Mikdash Melech, Irmelucha. Donc Yerushalayim correspond bien à la Malchut, c'est magnifique. Il n'y a pas de Malchut sans Yerushalayim. Yerushalayim, c'est la Malchut. Et c'est pour ça que le roi d'Israël doit régner sur Yerushalayim. Donc aujourd'hui, quand on fait passer tous les ambassades du monde à Yerushalayim, c'est une préparation claire pour le dévoilement du Mashiach. Ça veut dire que tous les pays du monde sont en train d'accepter ça. Si tu n'as pas conscience que ta capitale, c'est aussi le royaume d'Israël, il y a un problème. Donc Yerushalayim, c'est la Malchut. C'est pour ça qu'il y a deux. Yerushalayim shel Mala, Yerushalayim shel Mata. L'idéal est la réalisation de cet idéal. Et donc on a terminé cette semaine, Akadosh Baruch Hu donc a bien joué dans son histoire, Baruch Hashem, il y a une vraie Hashgacha Pratit, vous le voyez. Et le début de la huitième semaine, on a terminé maintenant, c'est quoi? Chag HaShavuot. C'est-à-dire que c'est le 50e jour, on est d'accord? On a fini 7 fois 7, et maintenant on touche le point culminant qui est Chag HaShavuot. Et qui c'est qui est né Chag HaShavuot? David HaMelech. Et il est mort à Chag HaShavuot. C'est-à-dire que c'est la Hiloula de David HaMelech. Ça correspond tout à fait. C'est-à-dire que c'est le moment même où la Torah la plus supérieure descend dans le monde le plus inférieur. Donc on a fait un cercle complet de toute l'histoire des 7 Sphirot du Homer avec les 7 semaines et les 6 millénaires. Et vous voyez comment HaKadosh Baruch Hu agit dans son histoire. Elle n'est pas belle l'affaire. Maintenant, on aurait pu choisir des dates et dire n'importe quoi. On ne peut pas. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Si Akadosh Baruch Hu a décidé, je dois prendre en compte et respecter ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. S'il a décidé de fonder l'État avec telle personne et pas avec d'autres, ça veut dire qu'ils ont un certain mérite que je ne connais pas ou que je dois étudier. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Je ne peux pas dire que Dieu n'était pas là-dedans. Je suis obligé de dire que Dieu est partout. C'est lui qui gère tout ça. Donc, immédiatement, je me dois le respect. Même si je ne comprends pas. Tu comprends pas, étudie. Peut-être que ça te dépasse un petit peu. Peut-être qu'on t'a dit des choses qui ne sont pas complètement vraies ou entières. Tu n'as pas entendu tous les sons de cloche à ce sujet-là. Je vous rappelle juste comme ça, en petit machin, que Herzl a écrit un livre dans lequel il disait qu'il voulait construire le Beth Amikdash. Quelqu'un, dans son livre à lui, La Terre d'Israël. La terre des Juifs. Il a écrit là-bas, il est allé physiquement avec des Gdolim de son époque, il s'est mis au-dessus du mont du Temple et il a dit, je veux que ici, à l'endroit du Beth Amikdash, on construise, alors il n'a pas employé le mot Beth Amikdash, il a dit, je veux qu'on construise un édifice qui va être le centre par lequel Israël va rayonner dans le monde. Je vais vous donner la référence. C'est pas beau ça? C'est pas très spirituel. Hein? Non, il n'a pas vu, il est rentré, mais il n'a pas vu l'état. C'est vrai? Donc vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu sait choisir ses pions. Donc ne négligez aucun pion qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé. Et si un homme de cette envergure-là, il voit, et on l'appelle Chosé, qu'est-ce que c'est Chosé? C'est comme un prophète. Il y a les Chosim et les Nevi'im. Chazon Ishaïaou ben Amos. Donc il y a des Chosim, même s'ils ne sont pas exactement ce que vous pensez. D'ailleurs, à l'allure où vous allez, quand vous aviez vu Moshe, si vous l'aviez vu sortir de la maison de Pharaon, vous aurez dit, celui-là, je ne le veux pas comme Mashiach. Il n'a jamais fait d'yeshiva. Jamais. Ni yeshiva Ktana, ni yeshiva Gdola, ni Machon Meir, ni Wallo. Monsieur, d'où est-ce que tu viens? Je viens de l'école pharaonique de politique. Ah, tu as fait Sciences Po, et tu veux être le Mashiach, fais-moi rire. Ha, 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 ha. Hein? Alors? Par contre, tu vois Aaron, tu dis, ça, c'est un rabbin. Lui, je veux comme Mashiach. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je sais que Aaron, ton frère, il s'est parlé, mais c'est pas ce que je veux. je veux toi. Et Rabbi Akiva, la même chose, c'est un rabbin, mais c'était pas le Mashiach. Il s'est dit que c'était Bar Kokhba le Mashiach. Et si nous, aujourd'hui, on était à la place de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on aurait dit? Mais c'est quoi ce Rabbi Akiva? C'est un pantin. Il nous prend un type comme Bar Kokhba pour être Mashiach alors que c'est lui. Moralité, vous croyez que le Mashiach c'est un rabbin. Mais ça ne l'est pas. C'est un roi. Il peut être grand en Torah, mais c'est pas sa fonction d'être rabbin. Sa fonction, c'est d'être Goël. C'est un autre travail. Il faut savoir ce que c'est qu'un Goël. Ken?
Ah, juste, par exemple, pour Bar Kokhba.
Ouais.
Il y a un peu qu'ils ont testé, ils devaient sortir pour voir quel aussi il y a une caractéristique du Mashiach.
Ken?
Il peut sortir les gens et dire que ça dit que Mashiach.
Ken?
Comment est-ce que le Mashiach peut avoir toutes ses...
Ah ben ça se développe. Le Mashiach, c'est pas une donnée, un bloc qui vient, si le Terminator, il descend, et il marche dans la rue, et ça y est. Ça se développe, le Mashiach. C'est un homme. Il développe, il apprend son métier. C'est un métier, Mashiach. C'est un type qui est né d'une maman. C'est pas un Papa Noël qui descend d'une cheminée.
Il doit avoir un lien avec
Donc il a un lien, il va se développer, il va étudier. Il va avoir des enfants, il va avoir une femme, c'est tout ça, c'est pas un type qui vient tout seul, c'est un bonhomme.
Il va être
sur la vie spirituelle. Après, il aura Hogé Batorah que David Aviv. Donc ça, c'est, ça se travaille. Ça se travaille. C'est tout. Quel?
C'est possible qu'on n'arrive pas à
le
reconnaître sur le moment.
Non, c'est très possible qu'on ne le reconnaisse pas. Ça, c'est sûr. C'est évident, ça veut dire que quand il va arriver, tout le monde va lui cracher dessus. C'est évident. C'est ça le hic aujourd'hui. Ça veut dire que même la Géoula qui a déjà commencé, il y a la moitié des gens qui ne l'acceptent pas. Ils disent qu'elle n'existe même pas, la Géoula, qu'elle n'a même pas commencé. Alors comment tu veux que le Mashiach lui-même, on reconnaisse le bonhomme? Il va avoir des problèmes pour se faire accepter. Et les Ashkenazim vont leur dire, c'est quoi toi? Tu es Sfaradi? Tu es de chez nous ou tu es pas de chez nous? Les Marocains, ils vont dire les uns aux autres, Yalna ou la Massé de Yalna? Il est de chez nous, il est pas de chez nous? Les autres, ils vont lui dire, tu es quoi? Tu es machin, tu es de quel truc? Khatidout Bobov? Ou Khatidout Lubavitch? Ou Khatidout Breslev? Ou pas Khatidout? D'où tu sors? Tu crois que c'est facile pour lui? Et en plus, il va devoir faire des guerres, il va devoir prouver tout ça. Donc c'est un cheminement, c'est un travail. Donc prier pour lui, parce que Misken, le travail est très difficile. Hein, ça, tu vois, déjà tu te l'appropries. Alors Bezrat Hashem, tout ça pour vous dire comment Akadosh Baruch Hu intervient dans notre histoire. Toda Rabba. Tu veux que tu le trouves?